Je pars de rien, j'arrive à tout. Ou est-ce l'inverse? Ma foi, le destin n'a pas de loi. Je pars de tout, t'arrives à rien. Ou est-ce l'inverse? Ma foi, le destin n'a pas de roi.
Je viens de déposer une fille, une bombe, un coup fumant. C'est fou ce que je plais, poteau en ce moment. Physique, nah, t'es fou, c'est faux, ça je le sais. Un petit gros bronzé qui louchait, fauché comme les plaies. J'étais pas ce qui se faisait de mieux en mec. Plein de complexes, éternel ex par le passé. Fallait jouer les six chiffres au pif, m'ont découvert fou. Sorti blindé jusqu'à mon dernier souffle.
Allez, souffle tes bougies. Bon anniversaire, lui dit son père. Il boit son verre et embrasse sa mère. Il ne lui en veut plus pour l'abandon devant la maternelle. L'eau a coulé depuis, il a pu tester ses propres ailes. Simple radeau, il est devenu bateau. Travaille au McDo, va à la fac, sort avec ses potos. Sa première cigarette, sa première voiture, son premier joint, sa première capote. Pour lui, tout ça c'est loin.
C'est loin le temps où j'étais gosse, un merde moche. Pas de potes, pas de meuf, pas de sous, pas de peau. L'adolescence m'a grillé. Fallait vivre et j'ai chié. Prié les flics d'arrêter de gifler. Prison, je connais. Quadrillé, ma vigie est trempée. Rien serré, replié, sans famille j'étais. À bout, à court de tout, logé dans un foyer. Le soir je campais aux entrées des boîtes pour rêver. Rêver.
Je pars de rien, t'arrives à tout. Ou est-ce l'inverse, ma foi?
Le destin n'a pas de loi.
Je pars de tout, t'arrives à rien. Ou est-ce l'inverse? Ou est-ce l'inverse, ma foi?
Le destin n'a pas de loi.
Je pars de tout, t'arrives à rien. Ou est-ce l'inverse, ma foi?
Le destin n'a pas de droit.
Cursus classique, il prépare sa thèse et bosse en plus parce qu'à présent les factures s'apaisent. Son père est mort, son fils est né, le printemps vient d'arriver et sa mère s'est remariée. Ça va pas mal pour lui non plus, niveau boulot c'est le pied. Il passe les mois d'août à Saint-Tropez, sa femme est belle. Il construit sa vie comme un dessin d'architecture. Pas de gommage, ni de rature dans...
Et ciao, bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans pub ni hiérarchie, pour défroisser le chiffon, le rendez-vous du deuxième samedi du mois. Une fois n'est pas coutume, ce matin, le chiffon se défroissera avec deux chiffonniers venus présenter leurs travaux. J'espère que votre breuvage du matin est encore plus chaud que d'habitude pour affronter les frimas de l'hiver et écouter comment des petites mains dans l'ombre travaillent à vous informer. J'espère qu'il n'y a pas de calva dans votre café, et oui, vous avez bien entendu, défroisser le chiffon. Chic, ça veut donc dire, comme on dirait en normand. Eh bien, dépliez le seul journal indépendant de Paris et sa banlieue, qui arrive à voir au-delà des dernières 24 heures ou de la dernière saillie dérapante. Sans actionnaire ni publicité, à l'instar de cette radio, avec une certaine propension à démaquiller la novlangue pour voir son grain de peau pas toujours bien exfolié. Ce trimestre, notre numéro est consacré aux Jeux Olympiques et à tout ce que peut cacher cette belle flamme fière dans le vent. Nous recevions ici même le mois dernier l'un des derniers et des seuls critiques de l'idéologie du sport, Marc Perelman. Nous, quand une idée reçue est trop bien ancrée, on aime bien lui servir des salades de phalanges et autres uppercuts, et l'idéologie incontestable du sport a subi le même traitement. L'émission est d'ailleurs toujours disponible en tapant le chiffon radote sur notre site hôte-radio-libertaire.org. Pour introduire notre sujet du jour, thème de travail de nos deux chiffonniers que je vais présenter dans un instant, j'aimerais, comme à l'habitude, solliciter vos cerveaux embrumés et vous poser une petite question. Vous êtes-vous déjà émerveillé devant les subtiles lumières de fin de journée des jardins de Versailles? Des reflets dorés des enfilades de pièces, des voluptueuses fragrances des essences qui poussent dans son jardin? Eh bien, pardonnez cette fin de réveil. Cependant, sans ruiner la magie des lieux, elle est palpable. Gardez à l'esprit que cette volupté a été le prix de milliers de morts, jamais vraiment répertoriées. En effet, entre les plâtres, la poussière, le paludisme, il aura fallu le passage de centaines de charrettes à cadavres avant d'ériger cette merveille. Pensons encore à ce canal de la mer Blanche en Union soviétique, creusé quasiment à la main par les squelettes du goulag, sous les ordres de Staline qui fit plus de 25 000 morts, pour un résultat quasi nul, aucun navire lourd ne pouvait y circuler. Deux petits exemples de ce que peuvent coûter les grands ouvrages humains. Le rapport avec les Jeux Olympiques, vous me direz. Ok, On a changé, nous ne sommes plus ni sous Louis XIV, ni sous Staline. Les techniques ont évolué, le droit et la médecine aussi. Mais des esclaves triment toujours, et malgré notre épais code du travail, certains meurent aujourd'hui au service des JO. Pour évoquer tout cela, nous recevons Adèle en plateau et Léo qui nous rejoindra par téléphone un peu plus tard, tous deux auteurs d'un article illustré sur les conditions de travail dantesques et les grèves d'octobre autour des chantiers des Jeux Olympiques, destinés demain à éblouir le monde par leur magnificence grandieusement grandiose. Alors avant de plonger dans le ciment encore frais, remué par ses petites mains, commençons par le commencement. Bonjour Adèle, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ?
Bonjour Paul, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Adèle Hospital, je suis journaliste dans la vraie vie aussi. au quotidien. Journaliste pigiste, c'est une sorte de... une organisation du travail, un peu comme freelance, c'est-à-dire que je suis payée à l'article. Et donc je signais avec Léo Poisson mon premier article pour le Chiffon de décembre.
Vous, Léo Poisson, qui nous rejoindra tout à l'heure si la technique fonctionne par téléphone. Vous avez un an et demi de métier, c'est bien cela. Comment se passent déjà ces débuts ? Est-ce que vous avez des lueurs d'espoir, déjà des désillusions ?
C'était une première année et demie un peu intense. La pige, ça les avantages fous de permettre de traiter tous les sujets dont on a envie. Si la première semaine on veut se lancer dans un reportage à Lyon, on peut. La semaine d'après, on sera peut-être en train de traiter un sujet d'actualité plus brûlante à Paris. Moi, je suis spécialisée plutôt en environnement. On peut parler de un jour d'énergie, le lendemain plutôt de biodiversité. Ça permet une grande plasticité. Bon, l'inconvénient, évidemment, c'est un peu plus précaire qu'un journaliste en poste dans une rédaction. On ne sait pas toujours combien on va gagner chaque mois. Parfois, on est payé un peu en retard. On doit aussi adapter sa charge de travail parce qu'on est payé à l'article, en fait. Donc, si on passe des heures pour un article payé seulement 100 euros, ben évidemment, c'est pas viable financièrement. Mais pour l'instant, j'ai plein d'espoir et je compte continuer dans la pige encore quelques années.
Une petite question me vient comme ça, mais est-ce que vous pouvez vous spécialiser durant vos études sur un thème précis, plutôt les sciences, plutôt la philo, plutôt...
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est même conseillé. En général, les journalistes spécialisés ont plus de chances de trouver du travail parce qu'ils vont être identifiés sur une thématique. Et donc, moi, c'est mon cas. J'ai fait des études d'environnement, de sciences. J'ai une licence de biologie et un master en sciences de l'environnement. Et après, j'ai fait une formation de journaliste scientifique. Donc voilà, ça permet je me suis formée à comment interviewer des chercheurs, comment lire des publications scientifiques. Donc voilà, je suis plutôt spécialisée en sciences et parmi ces sciences, dans tout ce qui concerne l'environnement.
D'accord. Eh bien, ça m'amène à ma prochaine question. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui fait qu'on devient journaliste ? Est-ce que la petite Adèle s'y voyait déjà ou est-ce que vous avez découvert ça après votre licence de biologie, par exemple ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a révolté plus petite et vous vouliez enquêter ?
Oui, bah, j'ai retrouvé une lettre de motivation que j'avais écrite en terminale où je parlais déjà de vouloir devenir journaliste. Qu'est-ce que j'avais écrit comme bêtise ? Pour faire un lien entre la communauté scientifique et le grand public. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi d'autres... C'était pas seulement faire ce lien qui m'intéressait, c'était aussi exercer mon esprit critique, parce que je trouve que le journalisme, c'est ça aussi. Et on va en parler, je pense, dans le chiffon. Les chiffonniers sont pas les derniers à exercer leur esprit critique. Donc oui, je pense que ça fait plusieurs années que c'était un rêve chez moi.
Tout en vous lançant d'abord donc dans des études de sciences dures pour vous dire que vous aviez le bagage scientifique avant de vous lancer vraiment.
Oui, c'est ça. En fait, j'étais un petit peu frustrée quand j'étais ado. C'était dans les années 2016-2015. On commençait à parler d'écologie dans les médias, mais je sentais bien que les journalistes n'étaient pas forcément formés sur ces questions. Et je me rappelle notamment d'une interview de Bill Gates sur France Inter, où des journalistes pourtant spécialisés en environnement donnaient une version vraiment très, très positive du milliardaire. On avait l'impression qu'il nous disait des choses très, très pertinentes. Et en fait, je pense que s'ils avaient été plus formés à ce que c'est véritablement l'effet de serre, ce que c'est l'effondrement de la biodiversité, ils n'auraient pas laissé Bill Gates tranquille, il n'aurait pas laissé pouvoir dire des choses comme « Oui, moi je suis écolo, mais je prends l'avion plusieurs fois par an, je suis écolo, mais j'aime quand même bien manger ma petite grappe de raisin en hiver. » Ça, il laissait passer ce genre de choses, et je pense que c'était sans doute un manque de formation aussi de leur part.
D'accord, et c'est d'un sentiment de colère, révolte, indignation, vous vous êtes dit
« Oui. »
Bill Gates n'aurait pas été interviewé comme ça.
Oui, je me suis dit, peut-être avec un peu de prétention, que si j'avais été formée, si j'avais été là, peut-être que j'aurais pu un peu plus le titiller, plus le pousser dans ses retranchements, et que j'en avais un peu marre de lire partout. Bill Gates, le sauveur du climat, le milliardaire philanthrope, j'aurais aimé qu'on questionne plus ça. Et oui, je pense que je me suis dit, puisque ça existe, que je le retrouve pas dans les médias, peut-être que je peux essayer de le proposer moi-même en me formant d'abord scientifiquement.
D'accord. Et nous allons arriver à votre rapport à notre cher journal, mais du coup, avant de rejoindre ce journal, ça fait 3 mois, c'est ça, hein, que vous avez rejoint le Chiffon, vous aviez un sentiment de manque, donc de toujours cette frustration dans le paysage médiatique actuel, de quelque chose qui manquait. Qu'est-ce qui vous a amené au Chiffon?
Alors, je pense que l'offre de journalisme indépendant et critique est assez étoffée au niveau national. Par contre, effectivement, au niveau régional, ça manquait pas mal. Et je m'étais jamais posé la question jusqu'à ce que je rencontre Gary Libault, le rédacteur en chef, et Clémence, une journaliste en manifestation, qui me présente le journal en... Je me rappelle, il s'était présenté comme l'alternative à Bernard Arnault et son Parisien. Et donc j'ai réalisé, oui, c'est vrai, on a Mediapart pour les sujets nationaux, Mediapart et plein d'autres, bien sûr, mais au niveau régional, peut-être que encore plus qu'ailleurs, les logiques financières, l'influence que peut avoir le fait d'avoir un milliardaire à la tête d'une rédaction. Et peut-être encore plus forte au niveau régional que national. Je me suis dit, effectivement, en fait, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, ça manquait.
Je renvoie d'ailleurs les auditeurs à la consultation de la carte de la presse indépendante, qui est très intéressante pour avoir cartographie nationale des canards sans actionnaires. Et du coup, comment ? Alors, vous avez rejoint le Chiffon à partir d'une manif. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à venir nous rencontrer à 15h dimanche, place de la République, pour la manifestation contre la loi immigration. Comment vous décririez donc ce Chiffon et votre première expérience avec l'article qu'on va évoquer de manière exhaustive juste après une petite pause musicale ? Et comment s'est passé le début de votre aventure ? Je me souviens de vous en réunion.
Et oui, effectivement, j'ai assisté à quelques conférences de rédaction, de préparation du numéro précédent, le numéro 10, avant de me lancer. Je me rappelle que Gary, le premier jour, m'a présenté le Chiffon comme une sorte de monde diplomatique punk. Et...
Alors ça, c'est une de nos critiques, hein. C'est une de nos critiques qui nous a dit ça, mais moi je vous demande vos mots à vous, ni les mots de quelqu'un d'autre dans la bouche de quelqu'un d'autre.
Eh ben, oui, pour moi, c'était... Gary m'a montré des anciens numéros, j'ai suivi la création du numéro 10, Et ça m'a plu, ce côté un peu... Dans les conférences de rédaction, autour de la table, il y avait des gens de toutes les professions, en fait. Il y avait très peu de journalistes professionnels comme moi. Donc déjà, ça changeait un petit peu des conférences de rédaction. Il y a des charpentiers, il y a des avocats, il y a des profs. Et tout le monde apportait son angle, son prisme. J'ai trouvé ça, c'est ça qui m'a marqué le plus, je pense, au début.
Et ça va de 22 à 75 ans. Pour ma part, c'est une des choses les plus précieuses. 4 générations quasi toutes les associations ne peuvent pas en dire autant.
Oui, c'est vrai. Ça aussi, ça m'a frappée. Je crois que ça m'a plu aussi l'aspect un peu bricolage, un peu débrouille. Il y a différents illustrateurs, illustratrices avec chacun leur style qu'on va réussir à harmoniser dans un journal. Il y a différents styles d'écriture. On va avoir des articles un peu plus académiques avec beaucoup de bibliographies, d'autres articles plus de reportages qui font plus intervenir les sensations. Ça, j'ai bien aimé un peu cette cuisine où on bricole. Et je pense que c'est aussi quelque chose que le chiffon revendique, le côté un peu...
Tout à fait.
Comment dire ? Débrouillardise.
Artisanal,
voilà.
Une information artisanale, ça pourrait nous faire un beau sous-bandeau. Et du coup, vous avez un an et demi en tant que pigiste. Vous disiez que vous étiez contente d'avoir une autre méthodologie par des charpentiers ou autre, enfin un autre point de vue sur la matière. Est-ce que vous percevez déjà des rigidités dans l'approche journalistique qui vous frustrent déjà au bout d'un an et demi de métier seulement ? Ce que je vous souhaite pas, hein, mais peut-être que si.
Si, évidemment. Je pense que j'arrivais déjà avec pas mal d'idéaux, parce que j'étais jeune. Et je pense que, oui, effectivement, comme vous dites, il y a pas mal de rigidité, notamment...
C'était une question, pas une affirmation.
Oui, je comprends tout à fait. Et ben, je réponds par l'affirmative, notamment dans mon domaine, l'environnement, qui est encore un sujet qui est de plus en plus traité dans les rédactions. Ça, c'est une bonne chose. Mais encore très souvent par le prisme des petits gestes ou alors des innovations technologiques qui peut-être peuvent avoir leurs bénéfices, mais ça va toujours être des bénéfices très marginaux et rarement on va avoir une vision plus globale ou une vision plus politique. Voilà, c'est vraiment ça qui généralement manque, une lecture sociale ou politique du changement climatique qui est un phénomène scientifique, mais qui a évidemment des implications sur les êtres humains. Et ça, j'ai l'impression, et je pense que je vais le retrouver dans le chiffon, ça. C'est quelque chose d'important pour la rédaction, c'est avoir toujours une lecture politique d'une décision. Évidemment, on peut se moquer quand Bernard Arnault propose des taxis volants comme nouveau mode de transport pour les Jeux Olympiques. C'est rigolo, mais je pense que le chiffon va un petit peu plus loin. Il va interroger aussi qu'est-ce que ça veut dire, ça. Pourquoi on se retrouve dans une ville où une personne va pouvoir se déplacer dans un taxi volant pendant que les franciliens et les touristes vont s'entasser dans un métro qui va moins bien fonctionner.
Et coûter plus cher,
ouais, comme on l'a vu dans les articles de ces dernières semaines. Donc oui, ça c'était un peu quelque chose qui commençait à me frustrer dans d'autres rédactions et que j'ai l'impression d'avoir trouvé au chiffon.
Et comment vos confrères, vos collègues voient votre engagement militant bénévole ? Est-ce que vous les avez tenus au courant ? Peut-être vos anciens camarades de classe, j'allais dire, pardon, je ne veux pas vous rajeunir.
Non, si, on peut dire encore camarades de classe, mais plutôt positivement. Je pense que... Bon, c'est pas quelque chose que... Eux feraient forcément, surtout que peut-être une activité journalistique bénévole, quand on est soi-même journaliste, pour eux ça a pu les surprendre aussi, puisqu'effectivement ils en vivent de leur activité journalistique. Mais non, j'ai plutôt eu des réactions curieuses. J'ai des collègues qui m'ont acheté des numéros du chiffon, qui quand ils ont... Je fais partie d'un collectif de pigistes qui s'appelle Extramuros. Et donc, on échange souvent sur les papiers en cours. Donc, j'ai des collègues qui m'ont fait parvenir des informations, qui m'ont envoyé des articles. Ils se sont sentis plutôt impliqués dans ce sujet.
Et avant de faire la pause musicale, vous auriez une petite sociologie rapide de l'étudiant journaliste type ? Est-ce que... Vous étiez dans quelle université, si vous pouvez le dire ?
Peut-être que moi, j'ai fait des études de journalisme à l'ESJ de Lille, l'école supérieure de journalisme de Lille, qui est peut-être une des plus connues des écoles et des plus anciennes. Donc, c'était un peu particulier parce que moi, j'étais dans la promotion des journalistes scientifiques. On était juste une petite dizaine et on n'avait pas trop de lien avec les étudiants généralistes. On faisait un petit peu, d'ailleurs, office d'ovni, je pense, dans l'école. Qu'est-ce que c'est que ces étudiants qui étudient les sciences? Alors, je peux faire une sociologie des journalistes scientifiques dans ma promotion, qui avait pour la plupart fait une thèse avant, qui était plutôt de gauche et plutôt féminine. Même si je pense qu'en sciences, la proportion d'hommes est un petit peu plus, journalistes hommes est un peu plus élevée qu'ailleurs. Pour les généralistes, je ne m'avancerai pas.
D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette première approche. Comme ça, l'auditeur peut comprendre ce que ça implique d'être au chiffon ou en tout cas d'avoir un portrait de notre faune locale. Alors, comme certaines oreilles sont particulièrement susceptibles quand il s'agit de musique, un petit air tout à fait incontestable à l'époque où la musique était encore de la musique, selon certains. Écoutons donc un hymne de toute une génération qui devrait plaire aux détracteurs de guitare saturée. Hommage aux travailleurs brisés, résidents permanents de la fête de l'Huma ou quasi, j'ai nommé Bernard Lavillier avec ses mains d'or.
Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Dirait le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire pour l'émission mensuelle du Chiffon, le journal indépendant de Paris et sa banlieue. Je nourris l'espoir d'avoir fait découvrir ce son à au moins une paire de jeunes oreilles ce matin. Deux volontaires de notre cher journal viennent nous parler d'un article dessiné sur les grèves des ouvriers sans papier au service des projets pharaoniques des Jeux Olympiques, thème central de notre numéro spécial, toujours disponible dans une foultitude de librairies dont la liste exhaustive se trouve sur notre site internet lechiffon.fr. Alors nous allons tenter une prouesse technique qui n'est pour d'autres radios qu'une formalité. Léo, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je t'entends.
Eh bien, c'est parfait. Ouh là là, je me sens capitaine de frégate à la NASA. Alors, bonjour Léo, vous êtes également un chiffonnier aux côtés d'Adèle, qui ne peut pas vous entendre malheureusement pour un petit souci technique, mais vous êtes illustrateur de l'article sur la grève des ouvriers sans papier qui s'est tenue en octobre dernier. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos auditeurs ?
Je m'appelle Léo, je suis tout jeune. Bah, en fait, je suis comme, avec Adèle, on est pas très loin, je pense, en termes de génération. Et pareil, moi, je suis sorti de l'école, j'étais au Beaux-Arts d'Angoulême et avant ça à Épinal. Moi, je suis jeune illustrateur, artiste-auteur. Ça veut dire illustrateur graphiste. Voilà, je fais aussi plein d'autres choses. J'organise des événements militants. On organise beaucoup de manifs là du côté d'Angoulême. Il y a beaucoup de choses en plus du statut d'artiste-auteur. Après, je suis aussi salarié, comme la plupart des artistes-auteurs autrices, du fait de pas avoir énormément de sous. Après, je commence à travailler pour la presse. Et comme Adèle, j'ai rencontré le Chiffon en manif il y a un an et demi. Il y a un an en fait. Et j'ai rencontré Gary. La manif, c'était en octobre d'ailleurs. Et tout comme l'article, qui est venu un an après. Voilà. Et je commence à travailler pour la presse. Je travaille beaucoup en indé à faire du fanzina. Du coup, je vais faire de la micro-édition. Et du coup, c'est des petits tirages aussi artisanaux. Je suis micro-imprimeur. Je fais plein de choses.
Et près d'Angoulême, une velléité de bande dessinée, peut-être ?
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je suis parti, c'est un peu mon parcours et une image d'Épinal en soi. Moi, je suis parti faire de l'illu à Épinal et je suis parti faire de la BD à Angoulême. Voilà. Et je suis parti me former en impression aussi à Épinal, le temps d'un service civique.
Donc, encore une fois, vous aussi, vous faites un métier précaire et pourtant, vous prenez le temps d'être bénévole pour le Chiffon. Nous vous en remercions. En complément de l'article d'Adèle, vous avez donc illustré cet article sensible qui, là, je l'ai encore sous les yeux. Hein, j'invite les auditeurs à le découvrir, qui ressemble à une bande dessinée. Comment vous est venu ce désir d'illustrer les articles en général et pour celui-ci ? Est-ce que c'était avant, pendant, après la grève ? Que représente pour vous en fait l'illustration par rapport au texte ?
Mettre en image, mettre en lumière, mettre en partage. Moi, j'ai vraiment là comme envie de mettre mes outils au service de lutte, au service de structures, de personnes, de projets qui me paraissent justes, nécessaires, urgents. Voilà. Et du coup, la lutte des réfugiés migrants, des travailleurs sans papier, et la lutte de la classe ouvrière. Me tient à cœur, et justement parce que j'ai grandi au milieu des années de la terre en banlieue ouvrière.
Quelle banlieue ouvrière ?
À Beson, dans le Val d'Oise, du coup en Île-de-France, dans le nord-ouest parisien, du côté d'Argenteuil et Nanterre.
D'accord.
Voilà. Et du coup, parmi les mains d'or. Et on a beaucoup écouté justement la ville des petits. C'était une des anciennes villes coco d'Île-de-France, Beson.
Voilà. Pas les corons.
On avait toujours. Non, c'est ça. Nous, c'était les mains d'or et tous les ans, on avait le droit à une place gratuite à la fête de l'humain. Voilà.
Ah ben voilà, c'est de le tirer dans l'ordre pour Radio Libertaire, je pense.
C'est ça.
Alors, nous entendions dans les rues « pas de papier, pas de JO » ou encore « c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer ». Autant de slogans donc entendus lors des grèves d'octobre 2023. Est-ce que vous pouvez emmener un peu l'auditeur avec vous dans la rue et nous raconter l'ambiance durant cet événement qui n'a pas vraiment secoué le pays autant qu'annoncé ?
Non, bah après, comme d'hab, c'est des causes totalement invisibilisées. Bah moi, ce qui m'a amené là, c'est moi je suis rentré. Enfin, je suis du coup vivant en Charente. Je suis parti. Je suis resté en Île-de-France pour un petit séjour et se rejoindre Adèle, rencontrer Adèle. Du coup, que j'avais jamais rencontré. Et du coup, c'était vraiment en fait l'envie de cet article-là. Moi, que j'avais demandé au Chiffon de pouvoir travailler sur ces thématiques-là, justement pour pas reproduire en fait le réveil de la Coupe de football au Qatar, en fait, à dire, en fait, on va se réveiller un mois, deux semaines avant, alors que des années avant, en fait, on connaît les conditions de travail, voilà, les droits humains, le droit du travail, en fait, dans certains contextes, en fait, et qu'on se réveille pas, un mois avant les JO pour se rendre compte que, voilà, qu'on a nos propres esclaves et qu'on a nos propres morts sur les chantiers. Et de pouvoir visibiliser, effectivement, ces luttes-là. Et en fait, voilà, du coup, on s'est rencontrés via cet article avec Adèle. On a pu aller rencontrer un ensemble de personnes, majoritairement, voilà, de syndicats, et qui nous ont amenés à rencontrer des travailleurs sans papier. D'abord, pas forcément, en fait, liés au JO. Et voilà, et via l'union locale, là, du 93, on a pu, moi, on m'a donné rendez-vous, du coup, le 17 octobre au matin. Voilà, et je savais pas vraiment pour quelle opération, et j'avais rendez-vous à telle heure, à tel endroit, et voilà. Et c'était une opération, en fait, qui se préparait depuis des semaines, des mois, et voilà, et du coup, moi, j'ai été, en fait, le matin en agence d'intérim, du coup, pour faire un déblocage d'agence d'intérim pour aller retirer les CERFA, du coup, les contrats de travail des travailleurs sans papier, aller exiger, en fait, les CERFA auprès des agences d'intérim. Voilà, et du coup ça s'est très bien passé. Enfin, on était une bonne quinzaine, une bonne vingtaine. Enfin, après ça a fait que grossir à mesure de la matinée. Et ça a été assez riche comme matinée. Enfin, il y avait aussi des journalistes de l'UMA, il y avait de Vaquita, il me semble aussi, le tout jeune média là d'Hugo Clément. Voilà, et du coup on s'est retrouvé en agence d'intérim, et moi, vu que c'était mon dernier jour à Paris, j'en ai profité pour aller à Arena, parce qu'en fait je voulais rencontrer, j'étais pas encore allé le temps de mon séjour sur les chantiers pour rencontrer en sortie de chantier des ouvriers, quoi, histoire de pas parler qu'avec des blancs ou que avec voilà des personnes syndiquées, mais encore un peu trop satellitaire. C'est ça. Et voilà, et des personnes françaises régularisées, qui sont pas forcément, qui partagent pas la condition, qui traversent sans papier sur les chantiers.
Et qui n'ont pas l'honneur d'être payées, au dire de certains, 30 à 40% moins cher.
C'est ça, exactement. Et encore, voilà. Et ça, c'est ce qu'avance, du coup, Jean-Albert Guidou
oui.
dans l'article,
tout à fait,
effectivement.
On va citer tout à l'heure.
Voilà.
Et quand on a la chance d'être payé, ce qui est déjà une chance.
Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, on nous a raconté aussi après beaucoup d'histoires. Parce qu'en fait, au final, on n'a pas la place de tout dire dans l'article. Voilà, mais il y a des gars qui nous racontent que, voilà, ils sont. Les jours de béton, ils mangent pas entre midi et deux. Ça veut dire que la seule pause qu'ils ont dans la journée, ils l'ont pas. On les fait venir le samedi. Et en fait, le samedi, ils sont pas payés. Il y a toujours un chantage, voilà, au papier, un chantage. Enfin, voilà, plein de chantage et encore les logiques de dette et de redevances. Et c'est les endettés qui doivent rembourser des dettes perpétuellement, quoi.
Et oui, les fameux assistés qui ne sont pas tant que ça.
C'est
est-ce
ça.
Que
mais
vous,
est-ce
en tant que personne sensibilisée aux mains d'or, etc., est-ce que vous-même, vous avez... est-ce que vous étiez naïf sur le sujet avant? Est-ce que vous étiez déjà très informé? Ou est-ce que la rencontre de ces gens a humanisé... des choses peut-être diffuses dont vous étiez plus ou moins inconscient.
Non, moi j'étais conscient de tout ça. Je sais dans quel système on vit, voilà. Et j'ai grandi justement à Beson, je le rappelle, mais voilà. Et puis j'ai moi-même, en fait, après, c'était pas les mêmes chantiers, c'était pas dans les mêmes conditions. Et quand même, je travaillais au Black, moi, j'ai des papiers, justement, enfin, voilà. Enfin, il y a quand même un... Voilà, un ordre raciste, voilà. Et du coup, moi, j'ai bossé sur les chantiers moi-même avec mon grand frère, et ça faisait partie des nombreux boulots qui me permettaient de financer nos études. Et du coup, je sais que mon frère, il a bossé sur des chantiers de la FIAC et sur plein de chantiers où c'est des infrastructures, encore une fois, qui brassent énormément d'argent. Il y a beaucoup de travailleurs sans papier, beaucoup de travail dissimulé, beaucoup d'exploitation, en fait, derrière le vernis, voilà. Et effectivement, et même l'intro là, avant Bernard, je trouvais ça précieux que vous parliez, enfin que tu parles de ce que coûte le château de Versailles, en fait. Et moi, en fait, c'est quelque chose auquel je pense en permanence en me baladant. Je sais que petit, en fait, je suis allé une seule fois au château de Versailles, et pareil, j'étais plein de haine, en fait.
Moi, je suis déchiré. Peu importe, que ce soit Versailles ou.
Ouais, c'est ça, ou Paris, en fait. Mais en fait, c'est de voir, en fait, toute la sueur et le sang de prolo. Derrière chaque bâtiment, comme ça, à chaque lieu de pouvoir, en fait. Et qui vient te rappeler le pouvoir au présent, et moi qui me rappelle l'exploitation, toutes les strates d'exploitation qui font ces pouvoirs-là, quoi.
Et ça m'amène, nous partageons ce point de vue, ça m'amène à ma dernière question. Comment est-ce que vous avez vécu ce vote de la loi immigration vous-même et ce que vous avez peut-être rencontré pour cette enquête ou vos anciens collègues de chantier
Dégoûté comme d'habitude après on n'attend pas autre chose de ces gens-là. Et justement, en fait, là, du coup, tout à l'heure, j'ai pas fini, en fait, mais du coup, après l'agence d'intérim, les blocages, voilà, on a pu aller retirer, en fait, les CERFA. Et moi, je suis allé, du coup, comme je repartais le lendemain, je suis parti, justement, sur le chantier Arena, du coup, qui est le seul chantier intramuros, du coup, à Paris, par rapport au JO, et du coup, sur lesquels, en fait, et j'ai eu un coup de chance, en fait, je savais pas qu'il y avait le blocage d'Arena le même jour. Et du coup, j'y suis allé le matin, en fin de matinée, dès que j'ai fini le blocage de l'agence d'intérim. Et je suis retourné, du coup, en fin d'après-midi. Enfin, je devais faire plusieurs allers-retours dans la journée pour aller rencontrer plusieurs personnes pour l'article et pour d'autres projets. Et voilà. Et du coup, en fait, il s'avère que, voilà, il y avait des rassemblements toute la journée devant le parvis d'Arena en soutien, du coup, aux travailleurs, travailleuses et syndiqués, voilà, qui venaient bloquer le chantier. Et je suis resté, en fait, je sais pas, dans l'après-midi de 16h à 22h, jusqu'à la sortie, en fait, de tous les camarades de lutte là, qui ont bloqué le chantier. Et c'était quand même... Enfin, voilà, en fait, il y avait un dégoût généralisé et une appréhension par rapport au climat. C'était aussi... On n'était pas loin du 7 octobre. Enfin, voilà, il y avait quand même un climat assez lourd, mais à la fois, en fait, il y avait beaucoup d'attentes, en fait, là, de la part des personnes, et c'était assez beau parce qu'il y avait des personnes toujours différentes sur le parvis. En début de soirée, de 19 à 22h, c'était vraiment plein, et ça a fini vraiment en liesse. Après, en fait, qu'on a appris qu'on a eu gain de cause, en fait, il y avait beaucoup de musique, beaucoup de joie, et on a appris pour la régularisation des travailleurs, de l'obtention des CERFA, il y a certaines choses qu'on peut être arrachées, on n'a pas obtenu la régularisation de tous les travailleurs sans papier ou de tous les sans papier tout court, et voilà, juste le droit à une vie et à des conditions de travail dignes pour tout le monde. Voilà, c'est étape après étape, et c'était voilà. Et justement, il y avait bien conscience, et c'est ce qui était dit dès ce soir-là sur le parvis, en fait, que un des motifs de cette lutte-là, c'était aussi de lutter contre la loi immigration, qui depuis s'est endurcie.
Rappelons pour une petite lueur d'espoir que le Conseil constitutionnel a été saisi.
Ouais.
Inch'Allah, comme on dit.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, après, pareil, je sais pas quoi en attendre. Je pense pas qu'ils vont radicalement révolutionner ce projet-là, quoi. Et Mais voilà, mais après, effectivement, gardons l'espoir. Enfin, je suis plein d'espoir, mais je reste dubitatif.
Voilà. Arracher la victoire pour quelques-uns, lui d'obtenir des conditions de vie dignes pour tous. Je vous remercie beaucoup, Léo, d'être venu faire un petit tour téléphonique dans cette émission. Une prouesse technique incroyable. L'autocongratulation n'a plus de limite. Et je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous. Ouais, bonne journée à vous aussi.
Bonne journée. Et nous revenons tout de suite en plateau avec Adèle, qui est donc journaliste. Et pour entrer enfin dans le cœur de son sujet, Adèle, comment en êtes-vous arrivée à ce sujet en première contribution? Sous toute réserve, hein, votre taux de mélanine ne semble pas provenir d'Afrique subsaharienne. Est-ce que cela fait tout de même écho à vos engagements personnels sur cette question précisément? Vous portez bénévole pour cette cause des travailleurs?
Oui, effectivement. pour être honnête, c'est une proposition de Léo qui m'a tentée. Léo avait envie de parler de ce sujet et de dessiner. Moi, ça m'a plu à la fois, le sujet m'a tout de suite plu, parce que je pense, bien que cet été, on ait eu pas mal d'articles sur les conditions des travailleurs sans papier sur les chantiers des JO, il me semble qu'on en parle jamais assez, et ça m'a aussi tenté de traiter ce sujet par le dessin, parce que je pense que la caméra ou l'appareil photo peut être un peu invasif. Moi, ça m'aurait gêné d'arriver, par exemple, dans une permanence de travailleurs sans papier, rester 15 minutes, prendre 15 minutes d'image et puis repartir comme ça sans donner d'informations aux personnes. Je pense que le fait que on soit tous les deux avec nos carnets, nos crayons, Léo prenait quelques photos mais toujours en demandant l'autorisation, on griffonnait, ça je pense que c'est plus doux peut-être. Je me suis dit, bah peut-être qu'on va faire sortir quelque chose de différent en arrivant comme ça, en prenant notre temps et en dessinant.
Un petit tacle à vos confrères de la télévision, peut-être.
Non, mais en fait, ils font du très bon travail pour les conditions qu'on leur donne, je pense, en fait. Je pense que les conditions en télévision sont très difficiles. Pour en discuter avec certains collègues, effectivement, quand on vous lance sur le terrain, vous avez une journée pour faire un sujet, même avec les meilleures intentions du monde. Évidemment, ça va être un peu brutal pour les personnes interviewées. Parfois, on tombe toujours sur les mêmes personnes. Je pense que c'est plus du fait des conditions qui sont imposées aux journalistes que d'une volonté des journalistes. Là, pour une fois, on avait vraiment des conditions idéales. On avait plusieurs mois pour traiter ce sujet. On pouvait le faire par le dessin. C'est quelque chose vraiment que je chéris beaucoup et qui est très rare en journalisme.
Et qui fait partie de l'ADN du chiffon, une actu autant plus long. Voilà, et 3 mois de lecture. Alors, comment a démarré votre engagement? Parce que cette nouvelle forme d'émission a pour orgueil de faire découvrir aux auditeurs le travail du journaliste. Donc, quelle première pierre on pose, quelle fondation on pose quand on s'attaque à un article?
Alors, c'est rigolo avec cet article parce qu'on était parti sur quelque chose de plus classique. L'été dernier, on n'avait pas du tout idée que cette grève allait avoir lieu. Donc l'idée, c'était un article plus classique, conventionnel, sur plutôt le parcours de quelques personnes, de quelques travailleurs sans papier sur les chantiers, raconter leurs conditions, comme l'ont fait très bien d'autres médias cet été. Et en fait, coup de chance assez incroyable, puisqu'on n'en avait pas idée, on arrive au milieu de la préparation de la grève. Au début, les collectifs et les syndicats nous en parlent pas trop parce que, évidemment, il fallait certaines conditions de confidentialité pour garantir la sécurité des actions. Mais au bout de quelques jours, ils ont eu un peu plus confiance en nous. Ils nous ont conviés à l'action du 17 octobre auquel Léo a pu assister. Je pense qu'il vous en a parlé un petit peu. Et donc là, ça a modifié tout le langage du papier. On s'est dit, évidemment, on va parler des conditions, mais ce sera plus le cœur du papier, ce sera cette grève qui est d'une ampleur inédite. ou plutôt depuis 2008, on n'avait pas vu une grève aussi fulgurante, aussi efficace aussi, puisque je ne sais pas si Léo en a parlé, mais elle a été...
D'arracher la victoire pour quelques-uns.
Elle a permis d'arracher la victoire pour quelques personnes. Et finalement, j'étais assez contente du tour que prenait cet article, puisque d'un portrait qui pouvait facilement tomber dans le misérabilisme de travailleurs exploités, on était passé au récit d'une grève éclair, de stratégie aussi. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. En discutant avec Jean-Albert Guidou, le responsable CGT, et en assistant, en étant dans la salle avec lui et les travailleurs sans papier qu'il a aidé, vraiment, on a pu un peu entrer dans l'engrenage. C'est pour ça que on a intitulé l'article « La machine olympique contre les ouvriers sans papier », parce que pour moi, il y avait vraiment une idée d'une grosse machine, et des actions comme celle de la CGT sont un petit grain de sable dans cette machine. Et donc, on avait aussi envie de raconter comme ça tous les chemins qu'il faut prendre, les papiers qu'il faut réunir, les stratégies, comment l'inspection du travail peut intervenir aussi. Je ne sais pas si Léo en a parlé. Non, pas encore. D'accord. Et ben, c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressée.
Donc, c'est cette réunion CGT que vous évoquez dans votre article avait une dimension pédagogique aussi, d'expliquer ce qu'il faut pour avoir un contrat de travail en règle, notamment autant voilà. L'organisation de la grève que l'éducation juridique, si je puis dire.
Oui, c'est vrai, en partie. En fait, ce que fait l'union locale de la CGT de Bobigny, là où on a été pour faire une partie de notre reportage, c'est qu'ils réunissent plusieurs travailleurs sans papier qui travaillent pour les mêmes entreprises. Ils l'ont fait en 2022 avec 25 travailleurs qui travaillaient sur les chantiers des JO. Ils les aident à réunir un maximum de documents pour preuves de présence sur le territoire. C'est ça dont vous parliez, le côté plus juridique, administratif. Là, ils les aident. Ils leur disent tout ce dont on a besoin parce que la CGT a une expérience et c'est un peu ce qu'est un bon dossier qui va pouvoir passer, a plus de chances de passer en préfecture. La deuxième étape, c'est que la CGT s'est mise en relation avec l'inspection du travail qui va sur les chantiers, qui fait des contrôles surprises sur les chantiers pour attester de la présence d'ouvriers sans papier dans ces entreprises. Là, les entreprises sont coincées. Elles peuvent pas nier qu'elles emploient des ouvriers sans papier. L'inspection fait des auditions avec ces ouvriers. Et à la fin, souvent avec un petit coup de pouce de médiatique qui permet de mettre en lumière ça débouche sur la régularisation des ouvriers, comme ça a été le cas en 2022 avec ces 25 personnes travaillant sur les chantiers JO, et comme ça a été le cas en octobre dernier avec des travailleurs. Ceux qu'on a rencontrés là à Bobigny étaient dans le bâtiment, ne travaillaient pas sur les chantiers JO, mais ils étaient neufs à travailler dans le bâtiment. Et ils ont aussi pu obtenir le CERFA, c'est une attestation.
Un formulaire administratif.
Ouais, un formulaire administratif qui est un peu le Graal d'un dossier de titre de séjour en préfecture.
Je me demandais si cette enquête vous avait changé ou vous avez... si ça vous a marqué, vous me l'avez dit, mais je vous interroge pour que vous livriez ça à l'auditeur. Vous avez rencontré donc 9 ouvriers du bâtiment. Ils vous ont montré des photos de leurs blessures. Vous évoquez avec pudeur le fait de ne pas vouloir tomber dans le misérabilisme, mais il y a quand même une condition ouvrière qui est assez cruelle. Vous citez le président de la République qui se félicite du fait que les chantiers des JO soient présentés comme 5 fois moins accidentogènes que la moyenne des BTP. On évoquait les morts des chantiers de Versailles ou du canal de la Mer Blanche en intro, mais finalement, il meurt des gens aussi chez nous pour que la pelouse soit verte. Est-ce que ça vous a changé? Est-ce que ça vous a peut-être orienté? C'était la première fois que vous traitiez un tel sujet, vous qui êtes plutôt journaliste des sciences. Est-ce que ça a orienté, peut-être pas toute une carrière, hein, n'allons pas dans les grands mots, mais qu'est-ce que vous a fait cet article à vous, Adèle, en tant que journaliste, bien sûr?
Je rebondis sur la citation que vous donnez du président, qui s'est félicité effectivement de très peu d'accidents du travail sur les chantiers des Jeux Olympiques. Ça, une petite précision qu'on a découvert au cours de l'enquête, c'est permis grâce à une cascade de sous-traitance. Ça a déjà été évoqué ?
Non.
D'accord. les sociétés de... Les maîtres d'œuvre officiels emploient des sociétés sous-traitantes qui elles-mêmes font appel à des boîtes d'intérim qui elles emploient les ouvriers sans papier. Donc ce qui fait que chez les maîtres d'œuvre, on n'a plus que des emplois administratifs, des emplois de bureau qui sont un petit peu moins dangereux que tenir un marteau-piqueur. Et donc c'est comme ça qu'on peut se vanter d'avoir beaucoup moins d'accidents du travail parce que toutes les tâches les plus dangereux sont sous-traités aux boîtes d'intérim et donc aux ouvriers sans papier qui entrent pas dans les registres. Donc voilà, ça c'était la petite précision sur la citation du président de la République. Ce que ça m'a fait personnellement, c'est que ça m'a choqué. Évidemment, j'avais pas conscience c'est évidemment dans une autre mesure, mais que ce qui nous avait tous collectivement choqué à l'occasion du mondial de football au Qatar, finalement la même logique, certes dans des proportions moindres, se répétait aussi pas très loin de chez nous. Ça m'a surprise. Et puis je pense que ça m'a donné aussi le goût de sujets plus de terrain, je pense, parce que parfois et notamment en journalisme scientifique, on peut faire pas mal de desks, comme disent les journalistes,
de bureaux,
de lire des études.
Pour nos auditeurs,
oui, bien sûr. de lire des études, interviewer des scientifiques au téléphone. Et finalement, on n'a pas moins ce terrain. Et ça, j'ai beaucoup apprécié être au contact des personnes, prendre le temps, parce que, ouais, je le répète, mais on a passé plusieurs heures dans les permanences des collectifs de sans-papiers à la CGT à l'union locale de la CGT à Bobigny. Et ça, j'espère que les dessins et peut-être le texte le montrent, mais on voulait aussi quelque chose de palpable, de tangible, et ça, j'aimerais bien l'apporter dans les enquêtes futures aussi.
C'est magnifique. Mais vraiment, sans aller dans aucune hyperbole, vous avez vraiment une illustration de l'effet chiffon, une journaliste scientifique qui nous rejoint et qui a envie de faire plus de terrain. C'est tout à fait magnifique. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure quand je vous ai demandé ce que ça vous a fait à vous, mais vous commentiez ce que disait le président de la République. Et là, j'ai quelque chose de très important à livrer à l'auditeur, c'est que l'un des dangers justement les plus pernicieux qui menacent les travailleurs, c'est un point crucial que le collectif des travailleurs sans papier pointe et qui est bien détaillé dans votre article, c'est justement cet éclatement entre les instances dirigeantes, les sociétés de BTP, les multiples sociétés d'intérim et des sous-traitants. Et les responsabilités sont diluées dans un océan de contrats et partenariats jusqu'aux ouvriers qui n'ont souvent pas de contrat. En cas de contentieux devant les conseils de prud'hommes, partir des sous-traitants pour remonter jusqu'au donneur d'ordre relève de l'exploit, voire, disons-le carrément, du fantasme probatoire. Donc j'en parlais tout à l'heure, une petite lueur d'espoir, hein, 10 d'entre eux ont saisi le conseil de prud'hommes pour travail dissimulé en fin d'année dernière, suspense pendant au moins 1 an et demi, durée moyenne d'une procédure au prud'homme. Cependant, le code du travail est particulièrement restrictif dans ces cas-là. Et sans établir que l'employeur avait la parfaite connaissance de leur situation administrative irrégulière en les employant, il pourra aller jusqu'à leur réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive et pour, tenez-vous bien, le préjudice d'avoir été trompé par le méchant salarié qui aurait produit de faux papiers, l'induisant honteusement en erreur et tuant quasiment une deuxième fois le Christ. On en est là, c'est le code du travail qui prévoit ça. Alors, de grâce, les travailleurs, sans ou avec papier d'ailleurs, collectez tous les éléments que vous pouvez, écrivez des textos, demandez vos salaires par écrit, prenez des photos des chantiers, constituez votre futur dossier. Si vous ne savez pas écrire, rapprochez-vous de représentants syndicaux, des avocats spécialisés du syndicat des avocats France, SAF, ou des maisons d'accès aux droits. Car les paroles s'envolent, les écrits, même sommaires, restent. Et il demeure des gens qui travaillent à utiliser toutes les petites lignes de notre code du travail. Adèle, vous l'évoquiez déjà un petit peu, cette éducation juridique lors des réunions de la CGT. Est-ce que vous avez pu un peu suivre l'après-manifestation et ce début de contestation? Est-ce que vous avez appris vous-même des choses en droit du travail, sachant que vous êtes pigiste, donc vous n'avez pas de contrat de travail?
Oui, effectivement. Comme on disait, les ouvriers ont obtenu le CERFA, qui est la première étape. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir espérer déposer un dossier complet en préfecture. Depuis la circulaire Valls de 2012, c'est le préfet qui décide si le dossier peut donner lieu à un titre de séjour ou non. Mais c'est plutôt en bonne voie. Et notamment, tous les articles qui ont évoqué cette grève, l'attention médiatique a peu aidé aussi, effectivement, comme dans le cas de 2022 et des Jeux Olympiques. Oui, moi, si j'ai appris quelque chose, enfin, c'est un peu naïf, mais c'est l'extrême complexité de ces procédures. Maintenant, je pense que je sourirais encore plus large quand on me dira on obtient un titre de séjour comme ça facilement. Enfin, ce qui me reste en tête, c'est les montagnes de papiers avec lesquels les personnes sans papiers venaient aux permanences de la CGT ou des collectifs, des véritables classeurs remplis de tout ce que vous évoquez à l'instant, des courriers de la mutuelle, ils allaient rechercher des années après, enfin, des choses que moi je jetterais, je pense, sans y faire attention, mais toutes ces petites preuves, des extraits de comptes, des tickets de caisse, tout courrier qui peut sembler inintéressant pour quelqu'un qui a ses papiers. Et d'ailleurs, plusieurs personnes sans papiers me disaient mais on est peut-être les personnes avec le plus de papiers en France. C'est vraiment paradoxal ce nom qu'on nous a mis, parce qu'effectivement ils sont toujours en train de se déplacer avec une énorme pochette de papier. Et voilà, c'est ça qui m'a frappée.
Dans le futur, est-ce que vous avez d'autres... Est-ce que vous voulez continuer dans cette thématique? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous voudriez creuser pour le chiffon ou pour vous-même, pour vous rémunérer?
Oui, en commençant à travailler sur l'enquête, j'ai pu discuter avec des syndicalistes sud, notamment, qui m'ont parlé de cette problématique des accidents de travail. Et ça, j'ai l'impression que c'est un des nombreux trous dans la raquette médiatique, et il me semble qu'on pourrait en parler beaucoup plus. J'ai ce chiffre qui m'a frappé, 3 accidents de travail par jour, c'est énorme, et pourtant on en parle assez peu dans les médias, donc j'ai pas encore de thème précis. L'été dernier, on a pas mal parlé des vendangeurs dans la région de Champagne, donc je pense que peut-être pour relier ça mes thèmes d'intérêt qui sont l'environnement, l'agriculture, la biodiversité, peut-être s'intéresser aux conditions de travail dans les champs. Pour le futur, ça pourrait être une piste. Il y a des champs en Île-de-France, donc aussi, pourquoi pas, à un niveau régional.
Tout à fait, sachant que le chiffon a une velléité de couvrir l'Île-de-France avant tout. Hors JO, dans la même problématique, vous teniez à évoquer les grèves chez Chronopost, grèves passées sous les radars, et puis si vous voulez en dire un mot à l'auditeur.
Oui, juste un mot, ça fait 2 ans que... pratiquement 2 ans que les ouvriers sans papier de Chronopost sont en grève. Ils sont une vingtaine, il me semble. Donc, ils n'ont pas ce levier, ce rapport de force qu'ont pu établir les ouvriers sans papier des JO, par exemple, qui étaient des centaines. Donc, c'est ça qui explique, je pense, que leur grève est patine. En cours de notre enquête, on a pu discuter avec un ouvrier de Chronopost sans papier qui avait obtenu un CDI chez Chronopost, mais qui venait de se faire licencier quand l'entreprise a découvert qu'il était sans papier, qu'il s'était fait embaucher sous alias, c'est-à-dire sous le nom de quelqu'un d'autre, quelqu'un en règle.
Et rappelons qu'il n'y a pas d'indemnité de licenciement en cas de tromperie sur les papiers.
Ah oui, si l'employeur vous faites bien de le rappeler.
Un petit mot, nous arrivons à la fin de cette émission, mais donc, est-ce que vous avez d'autres rendez-vous militants? Est-ce que vous avez peut-être une consigne aux futurs journalistes? Nous essayons de nous adresser aux jeunes oreilles, même si ce n'est pas toujours évident.
Un rendez-vous, vous avez parlé de la manifestation du 14, j'en parlerai pas. Il y a celle du 21 janvier, le dimanche d'après, à l'appel de 200 personnalités pour demander au président de la République de ne pas promulguer la loi immigration. Le chiffon sera dans la rue, je suppose. Et un petit conseil du haut de ma petite expérience d'un an et demi, pour mes confrères et consoeurs, peut-être aller sur le terrain, sortez des bureaux et aller dans la rue. Ça ne peut que déboucher sur un article plus humain et authentique.
Aller sur le terrain, sentir les gens. Et très bien, c'est donc une consigne de pragmatisme pour terminer cette émission. C'était donc Le Chiffon qui ne radote pas vraiment, malgré le nom de cette émission, le seul journal indépendant de Paris et sa banlieue au format papier, et on y tient. Une lecture qui s'étale sur 3 mois, à lire à son rythme pour décaler le regard sur ce qui brille parfois trop fort. Pour nous trouver dans toutes les bonnes librairies de l'Est parisien pour le prix de 3 croissants ou de 3 quarts de tartelettes à la framboise, à la librairie La Lucarne des écrivains notamment, Quilombo, Bourlinguet, Le Monte en l'air et j'en passe, une liste exhaustive est à trouver sur notre site lechiffon.fr. Pour proposer un thème d'enquête, voire pourquoi pas la réaliser vous-même, n'hésitez pas, que vous soyez intermittent du spectacle, docteur en sociologie ou grand croix de la Légion d'honneur, voire pourquoi pas les trois, le seul critère étant d'être intrigué et ou indigné. L'équipe de Chiffon, je vous le disais, c'est avant tout des réunions régulières et du travail patient et minutieux de personnes de 22 à 75 ans qui ont à cœur d'offrir une information digérée, allergique à la tendance du top tweet ou gazouille en haut des tendances si vous préférez. Je rappelle que notre numéro spécial dédié aux Jeux Olympiques contenait et contient toujours des enquêtes fouillées sur la formation et ou le formatage de la génération JO 2024, une histoire lacunaire du sport, une enquête sur l'enchevêtrement progressif sport et data, un article illustré sur les ouvriers sans papier que sont venus nous présenter Adèle et Léo, que je remercie chaleureusement, et un magnifique jeu de société autour du sport pour des soirées endiablées et une avalanche de fun. À la technique, c'était Gary et votre fidèle serviteur Paul. Et je voulais vous quitter avec un hymne de résistance que nous ne pourrons vous diffuser ce matin, mais j'invite les auditeurs à écouter Zebda, motivé par eux-mêmes. Et nous écoutons donc une petite perle du trip-hop, on pourrait dire, vous me direz si je me trompe, avec le groupe Orange Blossom et le titre Souffrance.
En attendant les chroniques syndicales, le dernier CD de Bernard Lavilliers.
Nous étions jeunes et larges d'épaule, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. 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 Toujours au rivage, dans les blés mûrs, y a des fleurs sauvages. N'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again, again. Nous étions jeunes et larges d'épaule. On attendait que la mort nous frôle. Elle nous a pris les beaux et les drôles. On the road again, again. 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 Ami, sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours. Tu partiras encore plus lourd. Exclu, hors de ma vue, je t'aime encore. J'envoie d'abord le cri des villes sur du vinyle. Taxi driver, nœud de vipère, flic solitaire, tombé par terre. Amour pour nous, chacun sa peau. Je vends du spleen. Pure origine. que d'amour. Que veux-tu que je sois dans cette société-là? Un ange ou un cobra, un tueur ou un rat? Où veux-tu que je vive dans la radioactive? Quand veux-tu que je meure un bel accord mineur? Plastique et choc, crédit ou cash, plus on se cache, plus on décroche. Je suis accro chez les dingos, milliards de flashs qui jouent au squash. Regarde-toi, regarde-moi, on ne se voit plus, on est perdu. Reste ou barre-toi, crève ou bats-toi, arrête ce slow entre deux eaux. Lentement je vois cet univers-là glisser vers le froid, le compte à rebours dans l'air nucléaire, les derniers repères brûle sous les lasers du manque d'amour. Que veux-tu que je sois dans cette société-là? Un ange ou un cobra, un tueur ou un rat? Où veux-tu que je vive dans la radioactive? Quand veux-tu que je meure d'un bel accord mineur? Montre fanée, fleur déréglée, j'étais à l'heure, toujours à l'heure, ventre désert, whisky glacé, bar mal famé, cage de verre. Dans le vacarme du bruit qui dort, je t'ai menti, je t'aime encore. Dans le vacarme du bruit qui dort, je t'ai menti, je t'aime encore. Lentement je vois cet univers-là glisser vers le froid, le compte à rebours. Brûle sous les lasers du manque d'amour. Que veux-tu que je sois dans cette société-là? Un ange ou un cobra, un tueur ou un rat? Où veux-tu que je vive dans la radioactive? Quand veux-tu que je meure un bel accord mineur? Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles et se lit glacé. Aller et venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés, cette solitude si dure et si rude qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune sur le sol allume, visage oublié de celui que t'aimes qui tire sur sa chaîne comme un loup blessé. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. Je sais, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Betty, faut pas pleurer. Betty, faut pas trembler. Je sais, tu vas rester là. J'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver. Je te dis je t'aime dans ce court poème, dans ce long baiser. Tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt. Je n'ai pas sommeil, je fume et je veille, et j'ai composé une chanson d'amour, une chanson secours pour l'autre côté, pour ceux que l'on jette dans les oubliettes, dans l'obscurité, pendant que les gens dorment au fond du conforme sans se réveiller. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. C'est, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Betty, faut pas pleurer. Betty, faut pas trembler. Tu sais, on se retrouvera là, ailleurs, en plein soleil.
Radio Libertaire 89.4, en attendant les chroniques syndicales à 11h30, quelques chansons du dernier CD, du nouveau CD de Bernard Lavilliers.
C'est une ville que je connais, une chanson que je chantais. Il y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. De n'importe quel pays, n'importe quelle couleur. Il vivait avec des mots qu'on passait sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Il jouait de la dérision comme d'une arme de précision. Il est sur le ciment et ses chansons maudites, on les connaît par cœur. ma musique parfois a des accords majeurs qui font rire les enfants et pas les dictateurs de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Ma musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça dépend des latitudes, ça dépend de ton attitude, c'est 100 ans de solitude. Y a du sang sur mon piano, y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. Ma musique parfois a des accords mineurs. Ils font grincer les dents du grand libérateur. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. C'est une ville que je connais, une chanson que je chantais, une chanson qui nous ressemble. C'est la voix de Mandela, le tempo Dr. Fela. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Cette séquence repasse en boucle dans ma mémoire. Chemise noire, front populaire et croix de feu. Et toi, y avait pas que des républicains sur les boulevards. La peur épaisse, beaucoup de gens baissaient les bras. Et toi, la bandiera rossa, même si ça paraît dérisoire pour toi. Une chanson, c'est pas grand chose. Même naïve, faut du courage, tu vois. La bandiera rossa, même si les autres fermaient leur gueule, tu vois. Suffit d'un chant qui se rebelle, que les autres se rappellent. Et puis tous ceux qui balançaient, amis et frères, pour de l'argent, tu t'en souviens de temps en temps. Vraiment, les braves gens qui ne disaient rien, mais laissaient faire,
pour être tranquille, pour ne pas être hors la loi. Et toi, la bandiera rossa, même si ça paraît dérisoire pour toi, une chanson, c'est pas grand chose. Même naïve, faut du courage, tu vois, la bandiera rossa. Même si les autres fermaient leur gueule, tu vois, suffit d'un chant qui se rebelle, pour que les autres se rappellent. Si aujourd'hui, sous d'autres formes, c'est on revient, comme autrefois, de quel côté tu te battras? Oui, toi, je n'en sais rien, mais je te le dis en ce qui me concerne, avec des armes, et puis aussi avec ma voix. Tu vois, la bandiera rossa, même si ça paraît dérisoire pour toi, une chanson, c'est pas grand chose. Même naïve, faut du courage, tu vois, la bandiera rossa. Même si les autres fermaient leur gueule, tu vois, suffit d'un chant qui se rebelle, pour que les autres se rappellent. Pour que les autres se rappellent. Thank you.
Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Bien, bonjour, Christian, donc de l'Union syndicale solidaire, pour notre émission mensuelle dans le cadre des chroniques syndicales hebdomadaires. Et donc, ce mois-ci, on va consacrer l'émission aux camarades de Chronopost, qu'on avait déjà eu l'occasion d'inviter, j'allais dire malheureusement, parce que ça signifie que leur lutte est toujours en cours et qu'ils n'ont toujours pas gagné, mais ça, ils nous l'expliqueront. Donc les camarades de Chronopost Alfortville qui sont en lutte depuis maintenant plus de 2 ans. Donc l'idée sur cette émission, bien, c'est de leur donner la parole. Ils sont 4 présents aujourd'hui avec un camarade de Sud PTT Solidaire Val-de-Marne qui est une des organisations avec notamment le collectif de soutien aux travailleurs sans papier de Vitry à soutenir très activement cette lutte. Et ben voilà, moi